Chapitre 3. Sur le Caux sans rumeur, tel qu'une mer démontée, les deux enfants reprirent leur course ardente. Bientôt, à leur maison, une lumière brilla, aussi menue qu'un phare qu'on aperçoit du large.
« Oh ! S'écria Andréline, ma mère est morte !»«
Pas du tout, c'est chez moi !»
La lumière n'était qu'un point, une fleur perdue dans les ténèbres. Cabrol avait mis sa lanterne sur le chemin, entre les deux maisons, pour guider les enfants. Elles se précipitèrent d'un effort suprême. Cabrol, assis devant sa porte, à la froidure du vent, les attendait non sans impatience, pendant que Nathalie cousait auprès du feu. Noguet les attendait aussi, les yeux fixés sur les nuages en déroute, dont quelques-uns avaient des reflets gris de métal. Et, les mains jointes, il priait Dieu que le malheur oubliât de s'arrêter sur le causse. La malade, dans son gîte, ne gémissait plus. C'est que le rebouteux, rien que de se montrer aux affligés, les console et les réconforte. Homme du sort et du mystère, n'apporte-t-il pas avec lui la vie, le renouveau, l'espérance? Il faut croire en ses exhortations et ses arrêts, voilà tout, simplement. La puissance de ce pauvre qui puise son savoir dans la fréquentation attentive des choses qui entourent les êtres ignorants de la terre vaut bien devant les desseins de Dieu la science faillible des médecins que les heures de la mort n'effraient point assez. Le rebouteux croit d'abord en soi-même, de par le pacte obscur qui le lie aux êtres surnaturels, aux plantes adorées de sa patrie, et persuadé de porter en soi des ressources merveilleuses d'énergie, il va, missionnaire respecté, répandre la fortune de son inspiration et de son expérience partout où les désespérés l'appellent, après avoir invoqué Dieu. Au dehors, les deux rivaux étaient assis dans la même ombre depuis longtemps. Cabrol ne songeait plus au crime de Noguet. Tantôt il avait horreur de la nuit à cause de son enfant, tantôt il redoutait que le malheur ne tombât également sur lui. Noguet n'avait pas mangé depuis le matin et le feu lui brûlait les entrailles. Est-ce donc vrai qu'il était maudit, maudit pour toujours par son égal du Caux? Il ne se dépouillait qu'avec peine de ses superstitions et pourtant il se disait qu'il se remettrait peut-être à espérer si sa femme Louisa était sauve et si son enfant, au retour du hameau, lui était rendu. Le remords le travaillait. Quelquefois, des représailles de Cabrol lui paraissaient légitimes, imminente. Déjà, il s'y abandonnait sans résistance. Mais qu'était-ce donc qui put l'empêcher de rentrer chez lui, dans sa maison massive, où le rebouteux, tel qu'un fantôme au fond d'un rêve, allait et venait en bourdonnant? Il craignait que la vue de la malade ne lui fît trop d'émotion. Il craignait surtout de la tourmenter davantage, en lui montrant son air de détresse. Tout à coup, Cabrol poussa un cri. Enfin, voici nos voyageuses. S'étant avancé, il embrassa Mionette à plusieurs reprises. Par scrupule, par déférence, il se gardait de toucher Andréline. Mais celle-ci, qui ne savait comment exprimer sa gratitude, lui sauta au cou. Sois prudente, lui dit-il. Ton père est là, sur son banc. S'il te voit m'embrasser, il te battra. Tu le sais bien?
Tant pis, je n'ai plus peur. D'abord, il ne me battra pas parce que Mionette m'a sauvé la vie et je m'en souviendrai toujours. Ah, Mionette, viens, viens avec moi dans ma maison. Je suis sûre que tu feras du bien à ma mère.
Non, c'est impossible.
Si tu m'aimes, je te dis de me suivre.
On me grondera chez toi. Veux-tu qu'on me fasse du mal?
Ça, jamais. Je m'y opposerai, vois-tu?
Noguet, ses mains aux genoux, se détournait en frémissant d'une telle angoisse qu'il ne pouvait proférer une parole. Il laissa, paisible et résigné, entrer les deux petites camarades qui étaient mouillées encore, leurs habits en désordre. Seulement, pour défendre son enfant, la préserver d'une lâcheté peut-être, Cabrol marcha jusqu'à la maison voisine. Et, debout, devant le banc de pierre, il dit tout bas, avec un accent de volonté profonde,
« Noguet !»
Celui-ci refusait de le voir. De sa main brutale, il le repoussait.
« Noguet !»«
Eh bien, quoi ?»«
Ne t'irrite pas, on ne sait pas raisonner dans la colère. »«
Tu viens me faire le maître d'école ?»«
Mon Dieu, je n'ai pas tant de prétentions. Je te dis uniquement que ton crime de ce matin ne t'a pas porté bonheur.
Non.
Tu n'as pas mangé?
Qu'importe.
Veux-tu quelque chose?
Je n'ai pas faim.
Alors, je suis toujours le maudit?
Sois franc.
Qui sait si tu ne cherches pas, avec tes générosités, à mieux me tromper?
Cependant, une main sur les yeux, Noguet semblait avoir honte de sa rudesse. Il songea soudain à la mort qui était proche, et un sanglot le secoua longuement.
Tu ne vas pas dans ta maison, Noguet?
Tu vois bien que non.
La malade doit t'attendre. Sans toi, elle peut mourir. Ton devoir est de rester auprès d'elle, de l'assister en sa douleur.
Noguet ne répondit point, mais un moment après, docile, il rentra.
Alors, sur le banc de pierre, à la place du méchant, Cabrol se reposa les mains jointes. Était-il remué davantage, lui aussi, par l'émotion de la mort? Ou bien, dans sa bonté à laquelle, malgré les pires épreuves, il revenait fatalement, comprenait-il d'un cœur confus que, cette nuit d'orage et de misère, l'âme d'un de ses semblables allait s'éveiller enfin pour le connaître et l'estimer? Bientôt, des chants s'élevèrent au fond de la maison, très doux comme lointains, parmi les assauts entrecoupés de la tempête qui, sur le causse, achevait de mugir. Était-ce des chants de deuil ou des chants d'espérance? Il reconnut la voix de Mionette, la voix joyeuse toujours et ingénue. De crainte de provoquer du désarroi par sa seule présence, il résistait à la tentation d'entrer. Mais, ayant levé le front, il vit la porte de sa maison s'ouvrir et, parmi l'ombre des murs, sur l'établi, brillait la lampe du travail comme sur un autel. Sa femme, lasse, impatiente de le revoir peut-être, s'acheminait au-devant de lui.
« Que fais-tu là, Cabrol ? » ?»«
Je crois que je rêvais à des jours meilleurs. »«
Tu ne reviens pas chez nous ?»«
Si. »«
Et notre fille ?»«
Chut, laissons-la. »
Tu la confies à Noguet?
Elle est plus forte que nous dans son innocence. Tu verras que, selon sa prédiction, nous aurons retourné le cœur de ces sauvages.
Ils rentrèrent lentement chez eux, dans le silence du plateau apaisé, sous le ciel bleuissant qui, peu à peu, se parait de ses étoiles, il n'y eut plus que les chants très doux, de plus en plus allègres, de la maison de Noguet. La grosse voix du rebouteux menait le branle ainsi qu'un bourdon. L'aube, en frissonnant, parut dans un ciel frais, sur le plateau couvert d'un léger voile. Cabrol dormait encore lorsqu'il entendit à sa porte frapper sans façon.
« Ouais, qui va là ?»«
C'est moi, le rebouteux. »«
Eh bien, es-tu content ?»«
Oui, avant de m'en retourner, je te dis de ne plus t'inquiéter. »«
Et mon enfant ?»«
Ne t'inquiète pas, je te répète. » On n'aura plus peur des créatures de Dieu chez les Noguet. La vision de la mort prochaine fait du bien aux hommes, quelquefois.
Et le rebouteux partit en ricanant.
Les Cabrol s'habillèrent aussitôt afin d'aller, un peu troublés tout de même, chez leurs voisins. Un jour livide éclairait la maison et, dans un coin, auprès d'un fenestron muni de barreaux, la couche où la malade reposait.
« Elle est morte ?» murmura Nathalie.
« Non, répondit Cabrol, si elle était morte, son époux serait là. »
Ils avançaient doucement, doucement, pour ne pas réveiller les deux enfants qui dormaient contre le mur, sur les pierres du foyer. La fatigue de la veille ridait à peine leur visage. Tandis que Nathalie rentrait chez elle préparer la soupe du matin, Cabrol rôda par les alentours à la recherche de Noguet. Partout, le silence et la solitude. Il eut beau crier, supplier, menacer, personne. Pourquoi donc ce mystère? Une dernière fois, et sans aucune espérance d'avoir une réponse, il appelait le méchant camarade vers son domaine et vers sa butte, lorsque Noguet, lentement, surgit du puits avec une tranquillité stupide.
Mon Dieu, mon Dieu! S'alarma Cabrol.
Ne crie pas si fort à cause de ma maison, lui répondit Noguet.
« Mais que fais-tu? Tu détruis mon ouvrage ?»«
Je le continue, au contraire. »«
Ah, quelle joie, par exemple !»«
Et je crois que tu auras raison du causse. »
Noguet s'avançait avec un air tout penaud en s'essuyant les bras trempés d'eau et d'argile.
Ne baisse pas les yeux, va, lui dit Cabrol, regarde-moi bien en face. Je ne suis pas un ogre.
Si tu n'es pas un ogre, c'est moi qui suis le loup imbécile et lâche. Comment cela peut-il être que l'homme soit pire qu'un loup pour son semblable?
C'est quand il ferme son cœur comme une source tarie.
Mais on dirait que tu es fatigué.
Non.
Tu as faim, je parie.
Oui.
Non.
Noguet haussa les épaules, de même que s'il eût désormais ignoré les souffrances de son corps et les privations.
Ils se rendirent à sa maison ensemble, les bras ballants, avec cette allure embarrassée des campagnards quand ils n'ont rien à faire le dimanche. Les deux fenêtres franchement ouvertes à la lumière du ciel, Andréline et Mionette s'étaient agenouillées au chevet de la malade et priaient Dieu. Quand les deux hommes se présentèrent, celle-ci se souleva, toute faible, et souriant de les voir réconciliés, elle leur dit
« Pauvre, je me sentais très mal hier, dans la fièvre de l'orage. »
« Est-ce que le rebouteux, lui demanda Doguet, t'a donné de ses tisanes sans se faire payer ?»
D'ailleurs, je n'avais pas d'argent, c'est un peu pourquoi j'évitais de me montrer.
Il m'a parlé des choses bonnes de la terre, du plaisir qu'il y a de vivre, de goûter le soleil, le vent de l'espace, l'odeur des plantes et des pierres, d'aimer ceux qui vous aiment. Alors, peu à peu, j'ai repris courage. Surtout, je suis charmée de Mionette, elle a dompté pour Andréline le loup du Causse. Toi aussi, Cabrol, tu nous as domptés, nous autres.
« Ce n'est pas moi qui vous ai dompté, Louisa, c'est le malheur. »«
Tu aurais pu profiter de notre malheur pour te venger. »«
Celui qui gagne le plus à ses tourmentes, c'est moi, puisque je trouve enfin ici-bas deux de mes semblables qui pourront me supporter. »«
Je crois, certes, répliqua Noguet. Écoute, si tu veux, tu cultiveras en bon frère nos deux terres, l'une après l'autre. C'est agréable et pas trop fatigant, la culture. » Moi, pendant ce temps, je creuserai le puits jusqu'à ce que je rencontre dans la croûte du Causse une veine d'eau assez abondante pour nous deux.
Non, que chacun participe à la fatigue et au danger de la besogne.
Maintenant, c'est toi qui deviens susceptible.
Je n'entends abuser des services de personne.
Mais il faut bien que je fasse pénitence.
Noguet souriait dans sa barbe bourrue. Il rit davantage, tout à coup, une lueur dans les yeux, car Nathalie apportait la soupe chaude et la fumée répandait entre les murs imprégnés de soleil son parfum de pain et de légumes. On s'installa autour du foyer, sur les pierres noires. Ce furent, comme à la table d'un roi, un jour de paix et de concorde, les agapes de l'amitié, arrosées par l'eau claire de la citerne que l'orage de la veille avait renouvelée.
« Alors, s'écria Noguet, pourquoi donc, Cabrol, t'appelle-t-on le maudit dans la vallée? Tu ressembles aux autres hommes, pourtant. »«
Peut-être non, je n'envie personne, moi. »«
Et tu n'entends jamais hurler ton cœur de colère et de haine ?»«
Jamais. »«
C'est étrange. »«
Ah, mon Dieu, nous habitons pour si peu de temps sur la terre. Pourquoi nous inquiéter des félicités apparentes d'autrui ?» Pourquoi ne pas nous borner à vivre selon la nature, sans effort, à la grâce de Dieu?
Tu es un pur chrétien, toi.
Je ne sais pas, hélas, je m'efforce d'être simple.
Tiens, ne sommes-nous pas heureux maintenant, rien que de nous aimer? Et les paroles agréables coulent de notre âme comme un ruisseau.
Il y avait toujours au-dessus de la malade, contre le mur, le crucifix poudreux fait de rameaux de buis. Noguet le décrocha et l'ayant posé sur le front de sa femme que la douleur avait marqué de sa grâce, il dit « Ce crucifix est la richesse de mon foyer. Le curé me l'a béni, voici longtemps, dans l'église de ton hameau du Puech. C'est toi qui m'en fais souvenir, Cabrol. »
Ils le baisèrent pieusement l'un après l'autre, puis les deux enfants qui se tenaient comme deux sœurs par la main. Et ils se regardaient, étonnés, tous, dans une vie nouvelle, au rayon du soleil qui semait, autour des maisons, sur l'immense Causse désert, ces fleurs de lumière.